parle de mesure, Germain. Livre, parfaitement évident, pour les pays germaniques de langue. Et on rappellerait tout à l'heure, la définition du terme germanique est évidemment une définition linguistique d'abord. Alors nous trouvons, bien, l'Empire allemand, bien entendu, nous trouvons une partie de la Grande-Bretagne, une partie anglo-saxonne et une partie danoise. Bien, les deux sont germaniques. Les deux d'ailleurs se recouvrent en partie puisque les Danois sont des envahisseurs. Il y a naturellement le Danemark et la Scandinavie qui sont entièrement occupés pour le Danemark et la partie sud de la Scandinavie par des Germains. De là, certains partiront pour l'Islande, puis pour le Groenland et même pour l'Amérique, dont ils sont les premiers découvreurs. Et puis il y a les pays où les Germains ont perdu leur langue et ont adopté la langue locale, mais où ils ont constitué l'aristocratie. Il y a le royaume de Kiev, qui est le noyau de la Russie. Ce royaume de Kiev a été fondé par des Scandinaves, ce qu'on appelle les Varegs. Il y a la France, qui, comme son nom l'indique, est le royaume des Francs. Il y a, à l'époque, la Normandie et la Bretagne, qui ne font qu'une seule unité, et qui sont un État scandinave, normand. Il y a l'Italie, qui est tout entière germanique, allemande au nord, scandinave au sud. On peut dire que l'Europe des 8e, 10e siècle, enfin, tout ce qui compte en Europe, est essentiellement germanique. Quelle est l'origine de cet état de choses? Bien, c'est ce qu'on connaît, jadis, les grandes invasions, mais aujourd'hui, le titre intitulé même de ce phénomène qui naît dans les tribunaux, il est conseillé d'adopter le terme allemand de Völkerwanderung, qui fait en plus plus savant. Donc, c'est cette Völkerwanderung qui commence avant même l'ère chrétienne, mais dont les grands mouvements sont au 4e ou 6e siècle, bien c'est à ce moment-là que se mettent en place ces dynasties germaniques sur la quasi-totalité de l'Europe occidentale. Et un mythe scandinave que conserve l'auteur islandais Snorri dans auquel nous devons. Snorri est un ecclésiastique chrétien, mais qui nous a conservé l'essentiel de la mythologie germanique, nordique, scandinave. Bien, le dieu Odin, autrement dit Odin, même a trois fils. L'un, nommé Vegdeg, vient à fonder un royaume dans l'Allemagne de l'Est. Et Vegdeg a un petit-fils qui se nomme Hengest, et Hengest avec son frère. de la lignée de Wilson, c'est-à-dire la famille de Sigmund, Siegfried et autres, et dont le royaume, c'est-à-dire qu'est la France. Bien, le mythe oublie un certain nombre de royaumes germaniques, mais enfin, il prend les trois principaux, ceux qui ont eu le plus d'importance dans l'époque ultérieure. Alors, ce mouvement de population qui aboutit à cette situation, je vous disais qu'il avait commencé très tôt, et les premières manifestations, bien sûr, au IIe siècle avant notre ère, et les Romains réagit très vigoureusement, et en particulier le célèbre Marius, qui est resté prononcé très populaire dans le milieu de la France, pour cette raison, a mis un terme provisoire au mouvement des populations germaniques. Alors, il est très curieux de voir sur une carte comment ces populations se sont déplacées. Par exemple, il y a une population qui s'appelle les Gauls. Eh bien, ces Gauls qui aboutissent aux alentours de la mer Noire viennent de Scandinavie, du nord de l'Allemagne. Il y a les Lombards qui ont donné leur nom à la Lombardie. Eh bien, eux viennent du Jutland et ont fait un tour en passant très à l'est dans des territoires qui aujourd'hui peuvent être polonais ou roumains. Et puis, ils sont venus au bout de quelques siècles en Italie du Nord, et ainsi de suite. Quant aux Visigoths, eh bien, il est très difficile de les suivre, puisque eux vont jusque non seulement à Toulouse et Narbonne, mais également en Espagne, où ils fondent un royaume qui tiendra jusqu'à l'arrivée des morts. Donc, au IVe, VIe siècle, vient déjà l'Europe de l'Ouest est en train de se germaniser. L'Empire romain est alors ou à l'effondrement, ou déjà effondré. Il y a quelques poches de résistance, il y en a une dans le nord-ouest de la France, mais par contre d'ailleurs, bien, ce sont des dynasties germaniques qui se mettent en place. Et naturellement, le fond de la population n'est pas concerné, à tel point que c'est la langue locale qui bien souvent prend le dessus, mais on ne saurait sous-estimer l'importance de l'élément aristocratique qui est un élément fondateur. Même s'il perd une partie de son identité, c'est lui qui donne le ton pour l'essentiel. Alors, qui sont ces Germains qui ont eu une telle importance dans l'Europe médiévale? Bien, on ne les connaît qu'à ces tables. Le premier auteur qui les cite, Posidonios, le fait en 90 avant notre ère, donc ce qui est très tard pour l'Antiquité. Beaucoup d'auteurs ont mentionné, par exemple, les Slaves bien avant. Le nom des Germains, qui d'ailleurs est d'origine assez difficile, et qui ne s'appliquait pas à l'ensemble de la population, a été transmis par César à monde romain, et ensuite, eh bien, nous avons des indications importantes chez Pline l'Ancien, et ensuite, eh bien, chez Tacite, qui leur a consacré un ouvrage, La Germanie, que je prendrai comme base de mon exposé, puisque c'est la source la plus facilement utilisable et, je dirais, probablement la plus intéressante. intelligentes, celles dans lesquelles les données sont non seulement présentées, mais analysées, interprétées, ce qui n'est pas toujours le cas chez des auteurs plus récents. Pas plus que César ou que Pline, Tacite ne nous donne de définition de ce que sont les germains. C'est une attitude du temps, une mauvaise attitude, mais contre lesquelles aujourd'hui nous réagissons. Heureusement, nous avons l'habitude de définir l'objet de nos études. Bien, le terme de germain est un terme linguistique et il se définit par l'intérieur du groupe indo-européen par ce qu'on appelle les isoglosses, c'est-à-dire des différences par rapport aux autres langues. On en compte 10, les plus importantes sont la mutation consonantique qui différencie fortement l'aspect des mots germaniques par rapport à leur correspondant gréco-latin, etc. Les deux flexions de l'adjectif qui survivent encore en allemand et qui ont des difficultés de la thème allemand, pour les débutants au moins, et puis l'organisation du verbe en verbe faible, verbe fort, et les sept classes du verbe fort. Eh bien voilà ce qu'on appelle le germanique. C'est donc une réalité linguistique et qui n'a pas toujours existé. Parce que quand la mutation consonantique ne s'était pas encore réalisée, nous avons un certain nombre d'indices, de mots, dont on sait qu'ils ont été empruntés avant la mutation consonantique. Avant la mutation consonantique, nous, ce n'est pas du germanique, c'est du pré-germanique. Alors, on ne peut pas dire ce que c'était. Le germanique commun, pour nous, c'est quelque chose qui se situe à peu près aux alentours de l'ère chrétienne, mais les guerres avant, c'est autre chose, du point de vue linguistique naturel. Ce germanique ancien n'est pas unitaire, aucune langue naturelle n'est unitaire quand elle s'étend à quelque peu étendu et était naturellement dialectalisé. Comment l'était-il ? Ça, nous ne le savons pas. Ce que nous savons seulement, ce sont les subdivisions ultérieures, celles qui ont donné naissance donc, aux langues qui se sont imposées par la suite. Et là, nous distinguons trois grands groupes. Le groupe de l'Est, le groupe nord et le groupe de l'ouest. On utilise comme critère essentiel le traitement du S final, celui nominatif des mots comme l'affection latine de dominus. Bien à l'est, ce S est maintenu, au nord, il devient R. Et à l'ouest, il tombe. Donc on dira qu'on a une aire pour le mot Dallas, la vallée, on dira qu'on a une aire de Dallas, une aire de Dal, et une aire de Dal, dont une subdivision est l'aire de Dal, qui est l'aire allemande, qui a la deuxième mutation consonantique. Voilà comment on subdivise le germanique ancien, l'une des façons dont on peut subdiviser le germanique ancien, si on considérait d'autres éléments, peut-être, bien sûrement, aurait-on d'autres divisions, mais ces divisions sont en partie arbitraires, puisque vous choisissez le critère avant d'établir la division. Enfin, en gros, elles correspondent à une certaine réalité historique, le fait que les Nordiques sont groupés sur la Scandinavie et le Finlande, que les effectivement, donc on a l'impression qu'il procède un peu comme César le fait pour les Gaulois, et commence par poser le cadre géographique sans non plus dire qui sont, comment il définit les Gaules. Et après avoir posé le cadre, donc l'océan, le Rhin, le Danube, vague pour la frontière orientale, il nous apprend tout de suite que les Germains se considèrent comme indigènes. C'est intéressant, il y a deux cas de figure. Il y a les peuples qui se considèrent comme indigènes, c'était le cas des Athéniens, par exemple, et puis il y en a d'autres qui se considèrent comme des envahisseurs, par exemple, les Indiens, ça veut très bien qu'ils n'ont pas une croix d'Inde et qu'ils sont entrés. Les Germains se considèrent comme indigènes, ils considèrent qu'ils sont fils de la terre, qui a une terre, qui a eu un fils nommé Tristo, et qui lui-même a eu un fils nommé Magnus. Vous reconnaissez le nom de l'homme. Bien, il est tout à fait intéressant et alors à partir de Magnus, il y a trois fils qui sont à l'origine des trois grandes catégories, des regroupements de tribus germaniques, qui est un regroupement d'ailleurs beaucoup plus religieux, culturel, que linguistique, enfin linguistique, nous en savons bien, ou politique. Il est curieux de voir ici le nom, un nom de nombre 2, Twis, et ici le nom de l'homme germanique moderne, mais le nom de Manu, le fameux législateur indien qui est le premier homme, qui est voit de Manu. Et ce personnage qui est double, il a un correspondant aussi en Inde, c'est le nommé Yama, le jumeau, avec sa sœur Yami. Et dans le mythe d'origine, on a très exactement les éléments du mythe d'origine indien et sans doute indo-iranien. C'est vous dire que dans le monde germanique, la tradition indo-européenne est bien conservée. Immédiatement après, Tacite nous mentionne que les Germains honorent Hercule qui est chez eux le premier héros. Hercule, ça n'est pas un héros, c'est un dieu, Shunara, c'est-à-dire le dieu de l'orage, le tonnerre. Il connaîtrait aussi Ulysse et aussi a surpris les germanistes qui demandent si la légende d'Odyssée est venue en pays germanique. Il n'en est rien. Même le Moyen-Âge a très mal connu la poésie homérique, ne l'a connue que secondairement par des auteurs mineurs. Bien étonnant qu'il s'est connu d'Ulysse. Bien, je pense que cette Ulysse, c'est en fait le dieu Loki avec lequel Ulysse a quelques points communs, mais également un personnage russe. Et dans ce même paragraphe 3, Tacite nous apprend que Hercule et ses héros bien, ont un hymne particulier qui se nomme le Bardi. Et ce nom de Bardi est tout à fait surprenant parce que ce n'est pas un mot germanique. C'est absolument inanalysable, ininterprétable en germanique, alors qu'il est très facile à interpréter en celtique, puisqu'on y retrouve bien évidemment le Germain. Elle l'était, elle est bien représentée aussi parmi les Celtes, mais enfin, nettement. Ceci a été confirmé par les études modernes. Ensuite, un petit excursus sur la géographie physique de la Germanie, pas d'intérêt particulier, puisque rien n'a changé de façon importante depuis. Et c'est avec le paragraphe 6 qu'on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire avec une description de la vie publique qui, à laquelle vont être consacrés un certain nombre de paragraphes. D'abord, la guerre, et ça n'est pas un hasard si Tacite commence par la guerre, car c'est l'essentiel de la vie publique des Germains. Pour les Germains, comme d'autres, un certain nombre d'autres peuples indo-européens, bien, il y a deux périodes dans l'année. Il y a la période de la guerre et la période de la paix. La période de la paix, c'est l'hiver, on ne peut pas faire la guerre. D'abord, moins en raison des difficultés climatiques, réelles, que parce qu'en hiver, il n'y a pas grand-chose à aller piller. Donc, c'est en été que l'on peut s'en donner à cœur joie sur le bien des voisins. Parce que ces guerres, vraiment, sont des guerres de pillage, des guerres pour d'autres objectifs. Et c'est à partir de la guerre que fonctionne pour l'essentiel la société. La guerre nourrit l'armée et nourrit la population. Et c'est seulement au paragraphe suivant qu'est abordée la question du pouvoir. Alors le pouvoir, bien, il est réparti entre eux, sans que Tacite nous dise exactement comment, entre des personnages qu'il nomme en latin des reyes, du roi, qui sont choisis, dit-il, ex nobilitate, d'après leur noblesse, et des duques, des chefs, ce qui donnera le titre hier duc, et qui sont choisis ex virtute. Et il ne dit pas s'il y avait en même temps, dans un même population, un rex et un dux. On a l'impression que ça pouvait évidemment être compatible, mais qu'en général ça ne l'était pas. Il y avait ou bien là, ou bien l'autre. Le rex, bien, il s'appelait Théodie. Et là, le chef de tribu, bien sûr, cette désignation, et le duc, eh bien, il avait un nom apparenté à duc, et qui était Harry, Kugan, ce qui a été l'allemand Herzog. Ces chefs choisis par la population en raison de leur vertu, c'est-à-dire de leur capacité guerrière, eh bien, ce sont des chefs de guerre, et on comprend que dans une société où la guerre est au centre de la vie de la société, ces chefs aient eu une très grande importance. Et, très curieusement, c'est à partir de la guerre aussi qu'est présentée la situation des femmes dans la société, qui a véritablement attiré l'attention de Tacite et d'ailleurs plusieurs auteurs anciens. Tacite note, après d'autres, que les femmes tiennent une place éminente dans la société germanique et qu'elles interviennent dans la guerre, par exemple, que ce sont souvent elles qui renverse la situation en rappelant les hommes à leurs devoirs. Et comme exemple de la place des femmes dans la société, eh bien, cite l'exemple de la prêtresse Vélida, qui d'ailleurs, très curieusement, ne porte pas un nom germanique, mais un nom qui est au contraire pratiquement celtique. Donc, il y avait un certain nombre de restes de la société celtique préalable, antérieure, et qui a survécu dans la société germanique. Et à partir de là, eh bien, par une transition très simple, Tacite passe au dieu, que, conformément à l'attitude de Titan, il interprète à partir de la religion romaine, ce qu'on appelle l'interprétation de Romana. Il y a pour lui le premier des dieux. Mercure est à Rome un dieu mineur, mais Mercure, bien que c'est ce Golen, on va en parler il y a un instant, qui se caractérise en autre chose par un chapeau d'un dieu voyageur, et c'est à Mercure qu'il a été identifié sans doute pour cette simple raison. À côté de lui, immédiatement après lui, il y a Mars qui a été identifié à Steve. Vous voyez le thème, Diva, qui est lui l'Indo-Européen Devo, c'est-à-dire le dieu de jour, du ciel. Et le troisième, eh bien, c'est celui qui a été présenté tout à l'heure comme un héros, Hercule. C'est donc Sunara, le dieu de l'orage du tonnerre. Non, tonnerre. Bien, il est assez curieux de voir que ces trois dieux se retrouvent dans les jours de la semaine, au moins. Avec mercredi, Wednesday, le nom du mardi, Tuesday, et le nom du jeudi, Thursday, qui sont bien le génitif, donc le jour de Modène, le jour de Dive et le jour de Suna. Donc, il est probable que cette déesse Isis, qui apparaît très curieusement, parmi les grands dieux du panthéon germanique, est tout simplement la déesse Aoyo, Freya nordique, que l'on a dans le nom du vendredi, donc l'allemand Freitag et l'anglais Friday. Comment se fait-il qu'on retrouve ces dieux germanique dans la semaine, qui est une notion d'origine sémitique, bien tout simplement parce que la semaine sémitique est fondée sur l'astrologie et chaque place, on ne sait pas exactement quand, ni par qui, dans quelles conditions, hein, qui ressemble un peu à un système cabalistique. Alors d'où viennent les runes? Bien, aujourd'hui, on est, c'est bien fixé sur la question, c'est tout simplement un alphabet nord-étrusque du 3e siècle avant notre ère, qui, on ne sait exactement comment, a été utilisé par des Germains du Sud et puis progressivement est monté vers le nord. Et alors, les runes, donc, du point de vue graphique, c'est simplement des signes alphabétiques, mais des signes alphabétiques utilisés par des gens qui n'écrivent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, ils leur donnent une valeur symbolique. Et chaque rune, avant de noter un des phonèmes de la langue, désigne une réalité ou un ensemble de réalités. Alors, par exemple, la première, F, c'est le nom du détail ferrou, c'est-à-dire tout un ensemble qui est le bétail, la fortune mobilière, les rétributions en espèces, ce qui se nomme en anglais fi, et puis le médaille, qui se nomme en allemand aussi fi, enfin ferrou, c'est tout cela. C'est d'ailleurs ce mot qui donnera ensuite fief. Donc, tout un ensemble de notions. Vous en avez d'autres qui se rapportent à la vie sociale.
De revenir sur le
habitatus. Ce habitatus, chef d'un commerce, d'un compte, il montre que c'est quelque chose d'important, il ne dit pas pourquoi. Bien, en quoi est-ce que c'est important ce comitatus, donc ce groupe d'hommes armés qui entoure un chef? Bien, c'est tout simplement le passage de la société lignagère tribale à la société préféodale, que dans la société antérieure, que Tacite n'a pas connu. Il n'y a d'autres chefs que les chefs de lignage, comme c'est le cas dans toutes les sociétés traditionnelles. Est chef, bien celui qui est, par sa naissance, le plus proche de l'ancêtre fondateur du lignage, il n'est élu par personne et il n'a pas besoin d'avoir une garde. La société le reconnaît sans aucun problème comme le chef. Et puis, bon, quand on passe de la société lignagère à la société tribale, il y a forcément plusieurs lignages, parce qu'on ne se marie jamais dans son lignage, mais toujours en dehors. Bien, il y a un chef de tribu, donc la tribu de l'homme féodal, et le chef, bien le féod. Et là, c'est le roi. Donc ce roi, il règne sur un ensemble de plusieurs lignages. Donc il n'est pas le chef naturel de tout le monde, mais uniquement des gens de son lignage. Donc dans cette situation est évidemment assez précaire, puisque il y a dans la un certain nombre de gens qui sont ses parents et donc qui lui obéissent naturellement. Et puis il y a d'autres gens qui ne sont pas ses parents et à qui il représente bien une autorité extérieure. Et bien ces chefs ont évidemment besoin pour s'imposer d'un comitatus, c'est-à-dire d'une bande qui leur est dévouée personnellement et indépendamment de ses origines. Alors, la même évolution de ces produites dans les pays celtiques, et là nous sommes mieux renseignés sur l'institution. Il s'agit de gens qui quittent même leur famille et qui deviennent des hommes d'un grand personnage. Donc l'institution, le mécanisme a été le même dans un certain nombre de sociétés. On a d'ailleurs des équivalents dans le monde indo-iranien. Les choses se sont passées de la même façon. Et là encore, bien, ça a abouti à la société annuelle de guerre et d'oisiveté. Pour l'essentiel de la population, donc, ou bien on fait la guerre, ou bien on ne fait rien. Surprend Tacite parce que il ne voit pas très bien à quoi correspond cette alternance, ce paradoxe de gens qui sont extrêmement actifs et courageux pendant une partie du temps et qui sont indolents et paresseux pendant une autre partie. Bien, c'est pour ça que les sociétés européennes ont fonctionné pendant très longtemps, les Romains eux-mêmes également. La seconde partie de l'étude est consacrée à la vie privée, à l'habitat, aux vêtements, au mariage, et Tacite insiste sur le sérieux du mariage chez les Germains. Évidemment, on passe fortement limitation de la limitation des essences et de l'avortement, qui au contraire était fait en honneur à Rome, à l'époque. Il note que l'éducation des enfants est rude, sévère, et qu'elle est partagée entre les deux lignées, entre la lignée paternelle et la lignée maternelle, ce qui aussi est une surprise pour lui, puisque à Rome, comme en Grèce, d'ailleurs, une bonne partie du monde indo-européen, l'appartenance est au clan paternel, le clan maternel ayant une importance tout à fait réduite. Bien, chez les Germains, au contraire, les deux lignées sont, je ne dirais pas d'importance égale, mais la lignée maternelle a aussi son importance. Qu'il s'agisse d'un archaïsme ou d'une innovation, ça ne sait pas, mais ça a été remarqué, et d'ailleurs, dans le monde celtique, on a fait aussi la même observation. Là, il note aussi la solidarité du clan, qui est très bien une chose, qui est partir en Grèce, lui qui, avec la société moderne, disparaît de plus en plus et fait place à l'individualisme en matière judiciaire, avec la solidarité du clan, on a aussi le mécanisme de la compensation qui met fin aux vengeances d'État incessantes et également une pratique de l'hospitalité. Ah, sur la vie quotidienne, il y a rien de bien intéressant, si ce n'est en ce qui concerne le rôle des beuveries. Les beuveries qui ne sont pas du tout, comme on pourrait le croire, une simple distraction, mais dont le rôle bien, est à la fois d'inciter les gens à la sincérité, in vino verita, bien que ce ne soit pas des beuveries de vin et de bière, elle-même, et aussi d'échauffer les âmes pour la grandeur. Et on ne voit pas très bien comment ça fonctionne chez Tacite, mais dans d'autres textes ultérieurs, on le voit plus clairement. C'est ce que les anglo-saxons nomment le guelt, c'est-à-dire, on peut difficilement traduire, si on traduit par vantardise, on a l'impression que c'est quelque chose de ridicule, ça consiste dans un banquet qui commence à être bien invité à se vanter d'accomplir des exploits. Et comme on est tenu par la parole que l'on a prononcée, eh bien ensuite on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de l'accomplir. Et les textes ultérieurs bien, montrent que cette vantardise Yulpe, c'est le moteur même de l'action. Et c'est par là que les peuples sont puissants. Alors, moralité, il faut bien faire voir les gens, il faut être généreux, il faut les inviter, et après, bien, ils se vantent et ils vous servent bien. Dans la société, alors là, je passe à ce qui est institutionnel, Tacite distingue trois classes et un statut intermédiaire. Ces trois classes sont des esclaves, mais qui sont, dit-il, différents des esclaves romains, des hommes libres et des nobles. Nous connaissons les noms de ces trois catégories. Et très curieusement, ils sont fondés sur des verbes, dont des noms d'agents, de verbes qui signifient, qui expriment un mouvement. Alors l'esclave, eh bien, c'est le coureur. L'homme libre, c'est celui qui marche, qui va, et le noble, c'est celui qui monte, qui s'envole. Alors on n'a pas très bien compris la logique de cette dénomination. Moi, elle me paraît claire, ça n'est pas une dénomination fonctionnelle, naturellement, mais une dénomination symbolique de statut. Et chaque classe est en fait une caste, comme en Inde, et qui est affaire de la caste noblière. Les nobles sont ceux qui connaissent les runes. Alors, ça n'est pas une société fonctionnelle. Ils sont en même temps guerriers, ils sont aussi des hommes libres, et ils connaissent les runes. Les hommes libres, ils sont guerriers, mais ils sont aussi, dans une certaine mesure, paysans, parce que tout de même, les Germains travaillent un petit peu plus que de la Ditacie. Pas énormément, même un petit minimum, parce qu'on ne peut pas entièrement vivre de déprédation. Si on avait pu, ils auraient sans doute préféré, mais enfin, l'expérience prouve que ça n'est pas toujours possible, parce qu'il y a parfois des mécontents. Surtout, quand à côté de soi, on a des tribus qui sont aussi pauvres et belliqueuses, donc corsaire à corsaire, ça n'a pas grand intérêt. Donc ceux-là, ils sont bien obligés de travailler. Et puis alors, il y a ce que Tacite appelle les esclaves, qui sont souvent des gens qui se sont eux-mêmes vendus en esclavage, par exemple pour dettes de jeu. Et quand ils n'ont plus de quoi payer leurs dettes de jeu, ils se trouvent en esclavage. Et c'est par là que Tacite passe à l'économie, qu'il n'y a pas de prêt à l'intérêt, et que les terres cultivables sont redistribuées chaque année. Et César l'avait déjà remarqué. Et il avait fait un contraste tout à fait saisissant entre les Gaulois qui étaient dans une société d'enrichissement et avec des riches qui devenaient de plus en plus riches et des pauvres qui devenaient de plus en plus pauvres et qui formaient une masse révoltée. Au contraire, les Germains, avec cette redistribution, avaient une société égalitaire et unitaire. Et tous les textes ultérieurs rappellent que le rôle essentiel du chef, c'est de redistribuer et d'empêcher l'accumulation. Alors ça nous paraît un peu curieux et dans une certaine mesure anti-économique, parce que non seulement on n'accumule pas, mais on gaspille. C'est-à-dire que ce qui a été pris par la razzia, on ne l'économise pas, on ne l'investit pas, on le dilapide immédiatement. Alors l'intérêt de l'opération, c'est que comme il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres non plus, et il ne se crée pas, comme dans les cités antiques et comme chez les Gaulois, deux catégories, une catégorie de riches, une catégorie de pauvres, avec un antagonisme entre les deux. Et cela, c'est très certainement une des raisons du succès des peuples germaniques. Ils ont conservé pendant très longtemps ce sens de la communauté qui a été perdue assez tôt chez les Romains et dont on n'a, il faut bien le dire, pas la moindre trace chez les Celtes. Chez les Celtes, en particulier chez les Gaulois, il y a partout le peuple c'est toujours deux peuples, il n'y a jamais un peuple. Tandis que chez les Germains, le peuple c'est toujours, il est toujours un, c'est une grande différence, naturellement. Alors je passerai rapidement sur la suite qui est consacrée aux différents peuples germaniques qui comportent un certain nombre d'indications intéressantes, en particulier sur les peuples suèves, sur les Selnons et sur leur culte de la déesse Nercus, sur la mention des jumeaux divins, des équivalents de Castor et Pollux, sur un certain nombre de traits tout à fait intéressants du point de vue de l'héritage indo-européen, mais enfin, qui sont tout de même un peu trop particuliers, et je voudrais arriver même à ma conclusion, dans laquelle je négligerai volontairement tout ce qui précède la période historique et tout ce que nous connaissons que par l'archéologie. En gros, nous savons que les Germains viennent du nord, à l'époque de Tacite, sont arrivés au Danube, mais un siècle avant, encore assez loin du Danube, et trois ou quatre siècles avant, donc à l'époque l'archéologie seule les saisit dans site Kiesdorf, qui est contemporain à peu près de Hallstatt final, donc la première période des Celtes, bien ils sont dans le nord de l'Allemagne, au Jutland et au sud de la Scandinavie. Bon, ce qu'on connaît par l'archéologie est même beaucoup moins explicite que ce qu'on connaît par les textes, surtout quand ils ont été écrits par quelqu'un comme Tacite. Bien, je voudrais en arriver à une réflexion très simple sur ces germes. Incontestablement, ils ont été les artisans de ce qu'on peut appeler la chrétienté médiévale. C'est eux essentiellement qui l'ont constitué. Ils n'ont pas été toujours une ethnie dominante, bien entendu. Avant, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui, au siècle, au millénaire précédent, dans la deuxième moitié du premier millénaire avant notre ère, c'est évidemment l'Empire romain. Romain, une population barbare qui ne fait pas parler d'elle et qui n'a aucune espèce d'importance à aucun point de vue. C'est seulement quand Rome commence à s'effondrer, les Romains contribuent à cet effondrement à leur façon, mais ils n'en sont pas la cause. Rome s'est effondrée pour d'autres raisons. D'abord parce qu'elle ne croyait plus en elle-même et qu'il y avait de moins en moins de Romains dans Rome. Alors comme les Romains déjà ne croyaient pas à Rome, les autres croyaient encore moins qu'eux. On a dit aussi que c'était le christianisme qui avait tué Rome. Ben non, historiquement ça ne tient pas. Rome est bien malade avant qu'il y ait le premier chrétien à Rome, et avant même qu'existe le christianisme. À l'époque de sa plus grande puissance, bien, les germes de la décadence sont déjà présents. C'est pas toujours que ces sociétés traditionnelles sont des sociétés extrêmement fragiles. Et que quand elles acquièrent la puissance, en même temps, elles ont toujours en elles des germes de déclin, parce qu'elles ne sont pas faites pour la puissance. Dans la société moderne, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, c'est que on a en même temps les moyens de la puissance qui se développe en même temps que les forces de la décadence. Simplement parce que le progrès qui, dans les sociétés traditionnelles, est essentiellement un facteur de décadence, et donc qui menait vite à l'effondrement, c'est ce qu'on voit à Rome, c'est ce qu'on voit aussi dans le monde celtique, aujourd'hui, ça, c'est plus compliqué que ça. Il est en même temps facteur de puissance, ce qui fait qu'on peut être à la fois tout puissant et déjà mort. Dans les sociétés traditionnelles, c'est beaucoup plus simple, on est totalement mort très, très rapidement. Bien, ceux qui ont précédé Rome, ce sont les Celtes. Au premier millénaire, alors que Rome est encore dans l'enfance, les Celtes de Hallstatt occupent les trois quarts de l'Europe. Et ils prennent Rome, et ils menacent ensuite à plusieurs reprises Rome, ils ont pillé le temple de Delphes, etc. Enfin, ce sont vraiment les maîtres. Et quand nous en voyons le portrait que nous en passe César dans la guerre des Gaules, vraiment l'image d'une société décadente. Bien, voilà trois exemples de cycles historiques qui montrent comment, dans des conditions d'ailleurs très, très différentes, une ethnie arrive à une puissance extraordinaire et puis tombe dans la décadence. Bien, en ce qui concerne les Germains, on a l'impression que c'est le cycle habituel de grandeur et de décadence des ethnies traditionnelles s'est arrêté. Et les Germains sont à l'origine des grandes puissances du monde moderne. Bien que je le reconnaisse avec ce que le monde moderne a de bon et de mauvais, mais les Germains ne se sont jamais effondrés comme s'est effondré l'Empire romain ou comme se sont effondrés tous les ethnies, on va dire les États, les ethnies celtiques. Les Germains ont au contraire donné naissance au monde moderne. Alors, comment est-ce que la chose s'est passée? Les Germains ont été christianisés. Et c'est là que je m'en tiens à le premier de cet exposé. C'est par les Germains que le christianisme s'est étendu au monde. Ça n'est pas par Rome, comme on le croit parfois, bien, on parle de l'Église romaine. L'Église s'est introduite dans un empire qui était déjà moribond, dont les forces vives étaient déjà sur leur déclin, qui ne tenait que, eh bien, par son acquis. Quand on dit que l'Église est passée aux barbares, qu'est-ce que ça veut dire? Dire que l'Église a très tôt compris que ça n'était pas Rome qui avait l'avenir devant lui, que c'était les barbares. Mais quels barbares? Essentiellement les Germains. Les Slaves, à cette époque, sont inexistants. C'est seulement au 7e siècle qu'ils commenceront à bouger, et d'ailleurs, pas spontanément, sous la pression des Bulgares et des Turcs, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils deviendront conquérants. Donc, les Slaves n'ont eu qu'un rôle tout à fait secondaire dans la christianisation et dans le développement de la chrétienté médiévale. Ce sont, au contraire, les Germains qui ont été véritablement au centre. Alors, ce serait un autre débat que de s'interroger sur la christianisation des Germains, qui est un phénomène extrêmement complexe et qui est très différent selon les temps et selon les lieux. Et il serait assez facile d'argumenter dans les deux sens, selon dans les lieux qu'on choisit, pour montrer que les Germains étaient tout à fait rebelles au christianisme et qu'ils représentaient d'une certaine façon une antithèse au christianisme, que ce Dieu modèle, comme l'ont cru certains chrétiens, étaient une véritable incarnation du diable, et on pourrait montrer au contraire qu'il y avait de profondes affinités entre les Germains et le christianisme, et que si la christianisation a été finalement si rapide dans le monde germanique, bien ça n'était pas sans raison. Bien, les deux aspects sont vrais. Je suis en train de publier en ce moment un ensemble de représentations chez les Germains que j'ai intitulé la religion de la vérité. Ça n'est pas la vérité au sens chrétien, c'est une autre forme de vérité qui n'est pas d'ordre métaphysique et surnaturel, mais d'ordre tout simplement sociale. Cette religion de la vérité, c'est très certainement ce qui est le plus fondamental dans l'héritage indo-européen. On trouve notamment dans le monde indo-iranien bien, et qui est à peu près absent partout. Bien, cette importance extrême de la vérité comme valeur centrale de la société de l'époque, c'est ce qui différencie les Germains primitifs de bien d'autres peuples dits barbares ou des peuples du monde gréco-romain en particulier. Et des Grecs, est inutile d'insister sur ce point. Et puis, il y a incontestablement la contrepartie, il y a aussi certains aspects dans la tradition germanique qui sont tout à fait antithétiques au message chrétien, et je ne voudrais pas diminuer le mérite de ceux qui ont évangélisé les Germains, ils ont certainement eu parfois fort à faire. Il y en a d'ailleurs une trace tout à fait amusante qui est dans le poème vieux saxon, Eliane, c'est-à-dire le sauveur. Et l'auteur de ce poème a fait une vie de Jésus à partir des évangiles, qui raconte parfaitement orthodoxe, pourtant puisse juger, mais enfin du point de vue des faits, il ne raconte rien qui ne soit dans une forme à la lettre des évangiles. Seulement, il présente le Christ comme un seigneur germanique, comme un dux ou un rex, entouré de son comitatus, qui sont les apôtres et les disciples. Les apôtres étant cercle intérieur, si j'ose dire, du comitatus, et les disciples étant une bande plus large, et tout ce monde-là, vit à la façon des Germains, et les idéaux, les valeurs traditionnelles de la communauté germanique dans les Lyons sont vers très plus large avec le christianisme le plus orthodoxe. Donc il y a deux lectures des rapports entre ce que vous appelez le germanisme, c'est-à-dire en gros la tradition indo-européenne conservée chez les Germains, et le christianisme. On peut les lire à partir des situations d'affrontement qui ont existé et dans lesquelles les chrétiens ont considéré que Baudet et sa bande, c'était Satan et tous les diables. Donc les adorateurs anciens de Baudet étaient des adorateurs du diable. Et puis, il y a une autre lecture qui est celle de Eliand et qui concilie le tout. Alors, c'est laquelle est la plus vraie, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que celle qui a eu le plus de succès et d'efficacité, eh bien, c'est même celle-ci, car les situations d'affrontement qu'on a connues notamment dans les pays nordiques, en Islande, eh bien, il a fallu vraiment que le christianisme l'ait remporté partout ailleurs pour que les choses se terminent bien, parce qu'elles risquaient fort de se terminer très mal. En tout cas, quoi qu'il en soit de ces questions doctrinales qui me dépassent, ce par quoi je voudrais conclure, c'est que les peuples germaniques ont constitué pour le christianisme la masse de manœuvre, en quelque sorte, par laquelle il est passé, par laquelle il s'est répandu d'abord dans l'Europe. Les Balkans, par exemple, ont été christianisés à partir des Germains, et d'une part, les Slaves ont été aussi. Et je terminerai par une célèbre formule de Péguy, et je dirais qu'en quelque sorte, les Germains ont été à l'origine de ces cités charnelles qui sont le bord de la cité de Dieu.